Petit retour en arrière. Dimanche dernier, c'est pas vieux, hein, sur le site de l'Express, une photo, vous vous souvenez de la photo, qui en fait était la photo de une du magazine Point de vue Image du Monde, pas encore sortie. On y voyait Nicolas Sarkozy, Euro Disney, et tout près de lui, presque tout contre, comme dirait Vitry, Carla Bruni, l'ancien mannequin devenu chanteuse. Un homme et une femme, dans ces conditions, ça s'appelle un couple. Et la photo en question, c'est une photo tolérée, nous dit-on. Alors pourtant, en mai 2005, Nicolas Sarkozy avait dit « Je ne veux plus qu'on parle de ma vie privée ». Alors aujourd'hui, changement de décor, avec cette photo tolérée. C'est magnifique, hein, tolérée. Alors pourquoi? À quoi sert cette photo? S'inscrit-elle dans une stratégie globale de communication? Tombe-t-elle à pic après la visite très controversée de Kadhafi qui avait positionné Nicolas Sarkozy en accusé de réception? Est-elle une diversion face aux vrais problèmes qui se posent en France? Oui? Non? Eh bien tout cela, c'est la question de l'utilisation de l'image, voire de l'instrumentalisation de celle-ci. C'est aussi la question de la frontière à géométrie variable entre vie publique et vie privée, aujourd'hui comme hier, et c'est notre sujet ce week-end avec nos invités.
Olivia. Alors pour répondre justement à toutes ces questions, première invitée, elle est déjà avec nous, c'est la philosophe Marie-Josée Monzin, qui réfléchit en bonne philosophe au sens de ces images, à leur fabrication, mais aussi parfois à la manipulation des images, et surtout à leur impact. Tout naturellement, nous vous demanderons donc pourquoi cette photo et comment ce dimanche à Disneyland a pu être reçue par ses destinataires. En deuxième partie de ce 7-9 du week-end, nous recevrons le politologue Dominique Régnier, qui nous dira comment, depuis son élection, Nicolas Sarkozy a quelque peu changé la fonction présidentielle à grand renfort de coups d'éclat permanents, pour reprendre la formule de François Hollande. Demain, tournée manège, nous recevrons le sociologue Henri-Pierre Jeudy qui analysera la stratégie intimiste du président, les formes de ce sentimentalisme politique peut-être, voilà. Pourra-t-on dire ça. Mais le 7-9 du week-end, Fabrice Well, c'est aussi tous ses habitués. Après le journal de 7h30, Alain Baraton qui vous apprendra aujourd'hui le langage, un langage qu'il connaît bien, c'est celui des plantes, la revue de presse d'Yvan Levaille, une parenthèse enchantée avec Laurence Luret, et je vous termine peut-être en vous indiquant un tout nouveau petit rendez-vous, c'est le Sarko-Circus de Jean Pierrot, ce sera à 8h15 dans son café du commerce. Les amours du président, vous le verrez, ne laissent pas indifférent. Alors en fait c'est à vous qu'on va poser cette question, Marie-Josée Monzin, vous qui êtes philosophe, cette question du ressenti, la première fois que vous avez vu ces images, je précise juste le nom de votre livre au passage, Homo Spectator, de la fabrication à la manipulation des images, c'est paru chez Bayard. Je dis ressenti parce que j'imagine qu'on est sur le registre de l'émotionnel aujourd'hui avec ces photos.
Oui, enfin il faut séparer, je crois, deux aspects en regardant ces photos pour y réfléchir. C'est le côté de la mise en spectacle et ce que ça représente d'abord pour Nicolas Sarkozy et d'un autre côté pour nous en tant que spectateurs. Essayer de voir comment les choses se...
Alors vous, en tant que spectatrice, comment vous les avez perçues lundi, ces images? Comme tout le monde, vous avez été informée.
Je dois dire que je les ai perçues comme tout le monde. C'est-à-dire, j'ai lu la presse, j'ai trouvé des analyses d'ailleurs, pardon, souvent extrêmement pertinente, qui expliquait le caractère exhibitionniste, infantile, inquiétant, même du côté des gens qui sont ses supporters ou ses amis ou ses plus proches, il y a une gêne. On entendait à la radio que quand on posait des questions à ses proches sur les effets de ses photos, il y avait une espèce de silence, de suspense, pas savoir quoi en dire. Ce qui fait que je regardais ces images et le fait de ces images, en disant c'est quand même assez drôle, parce qu'au fond, c'est une grande tradition que dans la tout accès au pouvoir, il y ait une érotisation de la situation. On accède au pouvoir parce qu'on désire le pouvoir, et l'érotisation de cette situation crée deux choses qui est d'une part l'excitation énorme, je dirais libidinale, de celui qui accède au pouvoir, et la séduction extraordinaire, la fascination que ça provoque. Donc Nicolas Sarkozy se présente à ce moment-là comme un sujet de la jouissance, et beaucoup plus depuis même sa campagne présidentielle. C'est quelqu'un qui a besoin de partager ses chagrins, ses craintes et ses bonheurs, parce qu'il est le sujet de la jouissance. Mais il jouit de tout, il jouit du pouvoir, il jouit de l'argent, il jouit des femmes. Et il faut absolument que tout le monde voit ça. Alors, je vais reprendre son vocabulaire, il y a de l'inné, il y a de l'acquis.
Alors un homme fragile qui peut parfois être
homme fragile
et un homme
pour
et un
moi,
homme
la première
aussi
chose,
qui
oui,
peut
c'est
parfois
ça.
Conquérir, c'est dur.
La première chose qui me frappe, c'est de me dire ce petit bonhomme doit être habité par l'effroi de ne pas être vu. C'est un matu-vu au sens propre. C'est quelqu'un qui ne peut s'assurer de son existence et de l'importance de son existence et de la tenue de ses triomphes qu'à condition d'avoir des spectateurs. Il a beau dire ne vous occupez plus de ma vie privée, il est incapable de se passer de spectateurs. Il n'existe que parce qu'il est obsédé par un souci, sortir de l'invisibilité. Il ne faut pas qu'il passe inaperçu. À mon avis, le Nicolas Sarkozy, dès son plus jeune âge, a dû être obsédé par cette idée de ne pas passer inaperçu et d'atteindre les plus hauts lieux de la visibilité. Et une fois au plus haut lieu de la visibilité, d'exploiter au maximum la mise en scène de sa visibilité, parce que c'est de ça qu'il jouit. Son triomphe, c'est d'être vu.
Alors, c'est gagné, Fabrice, oui. On le voit, on l'a vu. Hein.
Absolument. Et justement, est-ce qu'il s'affiche ou est-ce qu'il ne se cache pas?
Alors, ça c'est très intéressant. Il y a deux aspects qui ont l'air contradictoires, mais qui sont fortement articulés, me semble-t-il. Nicolas Sarkozy n'est pas quelqu'un qui laisse ses pulsions le guider. C'est un calculateur, c'est un stratège, et il ne fait rien n'importe comment. Il est extrêmement conseillé sur le plan de sa médiatisation. Il a un staff qui lui dit tous les matins, avec qui il décide tous les matins de ce qui sera vu, dit, montré et donc caché.
Sauf que là, on parle effectivement des conseillers en communication, mais au-delà de la stratégie de communication, on a l'impression qu'il est le cinéaste de son propre film et qu'il choisit les séquences, le temps médiatique, le temps d'image, il les choisit. En communication, il y a des conseillers qui vous disent, faudrait plutôt faire ça ou faire ça. Oui. Vous dites oui ou non. Lui, avant et en amont de la communication,
absolument.
Je crois. Hein.
Oui, parce que je crois qu'il est fondamentalement, viscéralement, un homme de spectacle. C'est quelqu'un qui a besoin d'être vu et qui sait gérer son apparition à l'écran. Et qui est tout le temps, pour lui, l'accès à la politique, c'est un accès au showbiz. On a connu ça avec Berlusconi, mais chez lui, je crois qu'il y a un côté beaucoup plus, à la fois plus calculé dans ses stratégies, et beaucoup plus intime, finalement, dans ses fragilités. C'est-à-dire ne plus être vu, c'est est-ce exister encore.
Il est le grand ordonnateur, en fait, c'est ce que vous nous dites. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que nous, est-ce que nous sommes happés par cette société du spectacle, par ce spectacle qu'il nous offre?
Il y a encore un autre aspect, c'est la façon dont Nicolas Sarkozy, par rapport à tous les grands présidents que nous avons eus, le général de Gaulle exclu, pour qui la vie privée était vraiment quelque chose d'étanche, depuis, nous n'avons cessé d'avoir des présidents qui, à un moment ou à un autre, laissaient apparaître ou ne pouvaient pas contrôler une information qu'ils auraient préféré ne pas être diffusée, jusqu'à François Mitterrand, qui lui était un jouisseur du cachet. C'est-à-dire, ce qui faisait jouir Mitterrand, c'est de cacher.
Le mystère.
Voilà.
Et même Pompidou, vous avez raison, on se souvient de Pompidou.
Ah oui.
avec sa femme, avec Claude, ils sont chez eux, et à un moment il lui dit Bibiche, passe-moi le cendrier, Bibiche. Et là effectivement, quand on voit ces images-là, on se dit déjà, au début des années 70, ça fonctionnait.
Absolument.
Avant de vous avoir coupé, donc.
Non, mais pas du tout. Vous avez raison, mais si vous voulez, les choses fuyaient, on ne les contrôlait pas. Là, elles sont entièrement contrôlées. Parce que Sarkozy est un enfant d'une nouvelle génération qui est la génération télé. C'est un enfant de la télévision. Et par conséquent, il maîtrise tous les mécanismes de la télé qui sont des mécanismes fondés sur la régression du spectateur. Et donc, d'aller à Disneyland est une façon de saluer sa propre enfance.
Eh oui,
au passage,
bien sûr.
À savoir qu'il est un petit garçon qui a besoin.
C'est le complexe de Peter Pan, ça.
Voilà.
Il
salue sa propre enfance. C'est-à-dire, comme tous les petits-enfants qui veulent absolument qu'on les voit, on me voit. Hein. Et en même temps, il sollicite le spectateur infantile. Vous voyez, on me voit là où nous sommes tous, c'est-à-dire au pays de l'enfance, de la réalisation de tous les rêves, n'est-ce pas? Il ne s'est pas déguisé en Mickey, mais on n'a pas besoin qu'il aille jusque-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le spectateur? J'y reviendrai.
Oui.
C'est la question de l'infantilisation de la scène publique.
Alors on va noter ça, infantilisation de la scène publique, et on va revenir un peu plus tard dans l'émission sur ce thème que vous avez abordé qui est intéressant.
Le 7-9 du week-end.
Alors cette histoire entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, vous savez, en tant que citoyen, on pourrait se dire on s'en fiche, après tout, hein, Nicolas Sarkozy fait ce qu'il veut, il est célibataire. Puis ce qui nous intéresse chez Nicolas Sarkozy, c'est de savoir ce qui est son programme pour la France, où il emmène la France pour les 5 ans à venir, c'est son programme social, économique, enfin, il y a tout à faire. Donc on s'en fiche, il fait ce qu'il veut, voilà. Sauf que si l'on considère que peut-être, ce conte de fées supposé et supposé mise en scène s'inscrit comme un contre-feu à une semaine pénible pour le président de la République avec la visite de Kadhafi, et contre-feu aussi peut-être au problème du pouvoir d'achat des Français. Là, on se dit, c'est peut-être un acte politique, et là, ça commence effectivement à nous intéresser. Bonjour Dominique Ranier.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur de sciences politiques à l'IEP de Paris, et je vous la pose cette question. Est-ce que c'est un acte politique, la parution de cette photo Carla Bruni, Nicolas Sarkozy, photo tolérée, nous dit-on?
Pour moi, c'est, ça n'est pas possible que ce ne soit pas un acte politique. C'est le chef de l'État, c'est un homme politique, il connaît parfaitement les ficelles du métier, mais plus encore, quand on est dans cette fonction, parce que les Français vous ont choisi dans une procédure au suffrage universel direct, unique au monde, il faut le rappeler, aux États-Unis c'est un suffrage indirect, dans cette fonction, vous ne pouvez plus ensuite faire autre chose que de la politique. Et donc, c'est à la fois par fonction, mais aussi par stratégie, que Nicolas Sarkozy a mis en scène son nouveau couple. Je crois que c'est lié, en effet, à deux choses. Il y a un aspect très conjoncturel que vous venez de rappeler, un moment difficile sur le pouvoir d'achat et l'affaire Kadhafi. Il y a un aspect aussi de tempo. On rentre dans... Ça va peut-être vous faire sourire, mais on rentre dans la période des fêtes. Oui. C'est Noël. Donc oui. il faut raconter un récit.
C'est le conte de fées, ça.
C'est le conte de fées. On est dans le compassionnel, mm-hmm. Et il faut que ce tempo-là corresponde à des considérations, y compris d'ailleurs le discours sur la religion, hein, c'est pareil. C'est-à-dire, on est en phase avec ce moment où on retrouve le petit Jésus, les cadeaux de famille, le sucré. C'est tout à fait en harmonie avec cette attente.
C'est une fête des enfants, oui.
Pardon ?
C'est une fête des enfants.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Alors... C'est Marie-Josée Monzin qui intervient.
Mais je le dis, c'est frappant parce que c'est vraiment là, pour le coup, l'investissement de tout un champ qui amène à vous, et je crois que c'est un des effets, pour moi, en tout cas les plus impressionnants, amène à vous, le vous c'est Nicolas Sarkozy, lui amène l'intérêt, l'attention de toute une partie de la société française qui était aux marges de l'intérêt pour la politique. Je vais vous donner deux chiffres très simples. On sait que le 20h de TF1 est le journal le plus regardé en France. Il y a à peu près 8 millions de téléspectateurs. Mais vous avez en France 42 millions d'électeurs inscrits. Et quand on fait le total des 20h, TF1, France 2, et qu'on ajoute un morceau de France 3, on arrive à peine à 15 millions. C'est considérable, mais ça n'est pas 42 millions. Et on sait que les autres ne lisent pas la presse tous les jours, beaucoup, c'est pas un pays où on lit la presse. Il y a tout un monde qui est aux marges de l'intérêt pour la politique et qu'on peut toucher, auquel on peut parler, manifestement, avec ce type de récit, ce type de conte.
Par la pipolisation, on peut dire ça.
Et par ces presses spécialisées.
Bon. Et ça, c'est pas un peu la dissolution d'une politique, quand même? La politique, c'est une affaire d'idées, c'est une affaire d'action et d'actes, d'engagement. Enfin, c'est sérieux, quoi, en un mot.
La politique, c'est une affaire... Qui a un rapport avec la gravité.
Mais bien sûr.
Absolument. Et beaucoup plus encore dans les phases historiques comme la nôtre aujourd'hui. De ce point de vue-là, Nicolas Sarkozy me fait penser à un président des années 70. Ce que je dis là n'est pas une manière d'ironiser. C'est-à-dire qu'il correspond davantage à une société française beaucoup plus jeune, avec beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de croissance, beaucoup plus de, je dirais, de bonheur matériel, pour aller vite, consumériste. Là, on est dans un monde de régression. Un monde qui démographiquement s'avachit, et en même temps une politique de gouvernement qui consiste, pour longtemps je crois, à reprendre ce qui avait été donné, donc plutôt une déconstruction, et c'est pour ça qu'il est à contre-pied de ce point de vue là mais il fait quand même de la politique, dans ce sens que dans la politique il y a toujours eu de la part des gouvernants l'effort de construire un monde en représentation, de travailler au fond les perceptions. Mais ce qui me frappe avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'il édifie un univers très artificiel, très fictionnel par rapport à la réalité que nous vivons tous. Et à un moment donné, on peut être détourné de la réalité parce que cette histoire est fascinante.
On peut être attrapé par le réel.
Mais le réel fait retour.
Alors, justement, je rebondis sur ce que vous disiez par rapport aux années 70. Vous disiez comme ça, une mise en scène dans les années 70, ça pouvait coller parce qu'on est en période de croissance. Donc Giscard et son accordéon en 74, ça collait bien.
Absolument. Moi, je crois que Giscard est vraiment quelqu'un qui a précédé Nicolas Sarkozy. La période 74-76 de Giscard, on y parle d'ouverture, je suis allé voir. de style décontracté, vous vous souvenez, toute une série de signaux comme ça.
Du football.
On est moderne, c'était la modernité, etc. On retrouve la même phraséologie, ce sont des emprunts très, très précis. Le centre à l'époque aussi jouait un rôle de ce type, etc. Mais c'était une société très différente où on pouvait distribuer encore beaucoup d'argent, où il y avait une croissance de 4 à 5% et c'était, on était en pleine consommation de masse. Disons.
J'aimerais revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure tous les deux. Vous nous dites, est-ce que le réel ne risque pas de rattraper le président? C'est une vraie question. Pour l'instant, on a les jeux, mais on n'a pas le pain encore.
Oui, c'est un peu ce que j'attends. C'est-à-dire que logiquement, parce que c'est la nature des choses, le réel devrait s'imposer, faire retour. Il suffit de considérer trois postes qui sont essentiels pour les Français, et d'ailleurs pour toute personne vivant normalement dans une société, le transport, le logement et l'alimentation. Vous savez, trois postes où les prix ont considérablement augmenté, les revenus, on le sait, n'augmentent pas, donc il y a une pression de plus en plus forte, et au fond, l'année 2008, ça va être quoi pour le gouvernement? Annoncer des déremboursements supplémentaires en termes de santé, inévitablement, parce que nous avons un déficit de 12 milliards d'euros de ce côté-là. Annoncer qu'on va travailler non pas 41 mais 42 ans, ou non pas 40 mais 41 ans, suivant les régimes, parce que nous avons un déficit de 5 milliards d'euros de ce côté-là. Et d'une manière générale, cette série de mauvaises nouvelles, à un moment donné, va être en contradiction avec cette espèce de récit merveilleux.
Donc on peut pas construire un quinquennat sur de l'émotion, de la compassion et de l'empathie. À un moment, il faut des actes, vous le dites l'un et l'autre, des décisions politiques. Marie-José Monzin, vous avez écrit un livre intitulé « L'image peut-elle tuer ?» C'est paru chez Bayard. Alors j'ai presque envie de vous demander si cette photo, ou celles qui suivront, est-ce que ça risque d'être l'image ou les images de trop, celles qui pourraient peut-être coûter la vie, non pas bien sûr au président, mais à sa stature d'homme d'État?
Je pense qu'il il construit ce que vous appelez sa stature d'homme d'État, comme on le disait d'ailleurs dès le début, sur le fait qu'il se présente publiquement comme un jouisseur du pouvoir, de l'argent et du sexe, et que c'est le mode sur lequel il se présente comme triomphant. Mais d'un autre côté, comme tout jouisseur, il a besoin d'un public. Vous disiez tout à l'heure, il y a des jeux et il n'y a pas de pain. Je dirais ce que j'ai écrit dans Mots et Spectateur. Aujourd'hui, il y a d'autant plus de jeux qu'on doit faire oublier qu'il n'y a pas de pain. C'est-à-dire que l'ensemble des jeux...
Ça n'a pas changé, en fait.
Voilà, l'ensemble des jeux et des divertissements, la sentimentalisation, le caractère show business, on l'avait vu. Souvenez-vous de Berlusconi qui disait « J'ai été élu par mon public ». Alors le mot citoyen avait disparu. Donc cette mise en spectacle, de tout montrer, cette idée que la télévision peut tout montrer, que les photographes peuvent tout montrer, la question que nous sommes en droit de poser, c'est qu'est-ce que ça cache? Quelqu'un qui montre tout cache quelque chose.
On parle d'inquiétude, certains disent inquiétude, j'ai lu des analyses.
Tout le monde est mal à l'aise, vous disiez le réel fait retour, effectivement, qu'est-ce que cache Nicolas Sarkozy, compte tenu du fait qu'il fait comme s'il nous montrait tout, qu'il ne cachait rien, une espèce de transparence. Alors ce qu'il cache, c'est l'échec effectivement d'une politique, une difficulté colossale, et donc peut-être un effondrement aussi de la vie politique derrière tout ça.
Dominique Régnier, justement, je voudrais que vous me disiez ce que vous pensez de cette phrase de François Bayrou, donc prononcée cette semaine. François Bayrou dénonce ce qu'il appelle la pipolisation de la vie privée de Nicolas Sarkozy parce que ça ne correspond pas, dit-il, aux valeurs de notre pays. Ça ne correspond pas aux valeurs de notre pays.
Alors, en tout cas, bon, ça c'est difficile de l'analyser parce que ça peut être vraiment très subjectif. Mais ce qui me semble en tension, peut-être en contradiction, c'est cette manière de se mettre en scène, puis de jouer sans arrêt avec le retrait et puis l'arrivée. On ne parlera plus de ma vie privée, puis à nouveau je vous en parle, et puis on n'en parlera plus, puis à nouveau je vous en parle. C'est quelque chose qui est en contradiction avec la fonction même. Encore une fois, président de la République en France, c'est singulier. D'abord singulier quand on se compare aux autres démocraties, je l'ai dit tout à l'heure, par le suffrage, mais aussi par le pouvoir. C'est le pouvoir nucléaire. C'est le pouvoir de la guerre, c'est le pouvoir des affaires étrangères. Donc c'est une fonction éminente. Et là, il y a une espèce de légèreté qui, à mon avis, ne correspond pas ni à la tradition historique de ce que c'est qu'en France un chef de l'État qui est par ailleurs le chef de la nation. Et là, ça renvoie à une ligne très très longue qui remonte même aux monarchies.
Est-ce qu'on en est aux envies du week-end et qu'on peut recommander des livres? Je voulais juste dire que Marie-José Monzin, notre philosophe, n'écrit pas que des livres très sérieux comme Homo Spectator, qui est sorti donc chez Bayard. Elle écrit aussi des livres pour enfants et avec avec les enfants. Dans ce livre, qu'est-ce que tu vois qui va paraître début janvier, hein, Marie-Josée, je crois le 3 janvier, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Et c'est quoi? C'est un dialogue imaginaire.
C'est beaucoup plus sérieux qu'au mot spectateur.
C'est beaucoup plus sérieux, en fait.
Et oui, parce que c'est une rencontre avec des enfants. Et là, on s'aperçoit que les enfants ne sont pas infantiles. Et que le futur téléspectateur qui a aujourd'hui 5 ans, 7 ans, 10 ans, n'acceptera pas, comme aujourd'hui, la mise en scène divertissante d'un business show d'un président en train de s'étaler. Enfin, je veux dire, les enfants sont...
Ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas aveugles.
C'est pas qu'ils ne sont pas dupes, c'est qu'ils savent distinguer de mieux en mieux ce que Christian Salmon a très bien défini, à savoir la story, la fable, la légende, et ils ne perdent pas le réel de vue.
Parce qu'ils sont nés dans cette société de l'image.
Voilà.
Merci pour la transition si naturelle, Marie-Josée Monzin, parce qu'on va revenir à ça avec vous aussi, Dominique Crénier. Je rappelle que vous êtes politologue, hein. Et on va revenir sur la geste sarkozienne. Moi, j'appelle ça la geste sarkozienne. Je disais tout à l'heure, finalement, qu'il soit avec Carla Bruni ou pas, on s'en fiche en tant que citoyen, fait ce qu'il veut, hein. Sauf s'il y a un message politique derrière, et là, ça commence à nous intéresser. Donc, on parlait de la storytelling. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis président, je suis de l'homme politique, j'impose mon calendrier, mon histoire, je diffuse quand je veux, et ça, vous parlez tout à l'heure
Je suis un conte de fées.
Vous parlez d'infantilisation.
Infantilisation.
Puis c'est peut-être aussi la question de la dissolution du politique dans autre chose, mais finalement. Marie-José Monzin.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la transformation de ce que serait la notion de peuple dans une véritable démocratie ou dans un champ politique, sa substitution par un public de téléspectateurs infantilisés, régressifs, très régressifs, qui jouirait de voir un autre jouir. On est un peu dans l'obscène, on est un peu dans la porno, mais c'est un peu comme ça. Seulement, le problème commence là où je pense qu'il va y avoir un problème, il en fait trop. Je pense que par rapport à l'ensemble de ceux qui reçoivent ces informations, y compris dans son propre camp, on regrette cet excès. Il prend des risques. Et la deuxième chose, c'est que s'étant lancé dans ce serial sentimental et ce showbiz qui est à peine politique, qui est un geste politique, qui paradoxalement effondre le champ de la politique, qui porte atteinte au champ de la politique. Il va être obligé maintenant de fournir les épisodes suivants. S'il épouse Carla Bruni, on va un petit peu s'ennuyer.
Parce qu'il va divorcer après.
Alors voilà, alors il va être obligé de fabriquer sans arrêt de l'événement. Alors on va avoir soit le drame.
C'est un cercle vicieux finalement. Hein.
Voilà, il est pris,
on a mis pied dedans, c'est un engrenage.
L'important, comme dans les céréales, il faut tuer de temps en temps un personnage sans quoi on s'en sort pas.
Mais pardonnez-moi, on n'est pas obligé de regarder.
Ah, on n'est pas obligé.
D'abord, on n'est pas obligé de regarder.
Tout
on n'est pas obligé d'écouter. On n'est pas obligé de mettre les caméras. On n'est pas obligé de.
Mais lui.
Mais en revanche, aujourd'hui, vous voyez, il est en Afghanistan. Ça, c'est une information.
Tout à fait.
Qu'on est obligé de suivre.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Bon. On est dans une sphère très différente, bien sûr. Oui, Dominique.
Il y a au moins deux difficultés qu'on peut souligner. La première, c'est que une personnalité politique qui aujourd'hui interviendra sur un sujet classique, type pouvoir d'achat, conditions de travail, etc., donnera le sentiment publiquement d'être tout à fait archaïque et de parler un langage ou presque oublié, c'est très difficile. En ce moment, ça va peut-être passer, mais c'est difficile. Donc le débat politique est difficile à tenir. Il est un peu tourné, je dirais, en ridicule, d'une certaine manière. Et puis l'autre aspect, notre difficulté, mais là, elle concerne davantage l'univers médiatique. Moi, je suis frappé de l'observer de mon point de vue. C'est que les journalistes, me semble-t-il, sont sans arrêt aspirés. Et ça, c'est l'effet autre du storytelling, c'est qu'on amène l'agenda médiatique sur des sujets qui évidemment sont choisis par le producteur, donc qui sont plus confortables pour lui, mais aussi on change sans arrêt de sujet. Ce qui fait qu'on ne peut jamais vraiment descendre en profondeur, interroger, aller au fond, ni même vérifier. Il y a des choses, par exemple, moi je ne sais pas si, c'est l'exemple par lequel je termine, mais je ne sais pas si ce procès du bateau qui avait fait couler un navire, qui avait provoqué le mal à bord d'un pêcheur, enfin, il était question que ce procès ait lieu en France. Je ne sais pas s'il a lieu en France aujourd'hui. ça fait quelques semaines, quelques mois, c'était une promesse qui avait été beaucoup communiquée, et moi je ne sais pas ce qu'il en est, je ne peux pas le savoir, je ne trouve pas l'information, et ainsi de suite. Donc on n'arrive pas à descendre dans la profondeur même de l'évaluation, de l'expertise, parce que tout de suite c'est autre chose.
Et on en revient à notre point de départ, du pain et des jeux, il va bien falloir un moment pour éviter les révoltes, distribuer un peu de pouvoir d'achat, comme vous le soulignez, Yvan Levaille.